les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h, et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Maurice Petit.
Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis effectivement avec Maurice Petit, né à Montauban, comédien amateur au départ, qui est devenu professionnel ensuite, et professionnel au théâtre, au cinéma et à la télévision. Passionné de littérature, il crée parallèlement l'association Confluence en 90, avec laquelle il conçoit et organise la première édition du festival littéraire Lettres d'automne à Montauban. Donc, bienvenue Maurice, comment vas-tu ?
Très bien, et merci de m'accueillir.
Je suis content de te recevoir également, et nous accompagne Irina, Aurélien et Jérémy, qui pourront intervenir à n'importe quel moment. Donc, vous êtes invités aussi à réagir. C'est notre public jeune, relativement pour nous, Maurice, parce que j'aimais bien que un public soit présent là dans nos émissions, afin qu'il puisse poser des questions spontanées et parfois gênantes, parce que ça donne un petit peu de dynamisme à notre présentation. Donc, Maurice, tu es né à Montauban, donc ensuite tu as fait un petit tour par Toulouse, Paris, et c'est dans les années 70 à peu près que tu as démarré comme comédien amateur dans les théâtres. Et tout de suite là, ma première question pour toi, ça serait: comment es-tu né dans la littérature, pour peut-être ancrer bien ces rapports théâtre-littérature?
Oui, ça a commencé par la littérature et le goût des histoires. J'ai été très influencé par un frère aîné qui avait pris l'habitude de me lire des histoires à voix haute. Il aimait beaucoup ça. Et il me lisait beaucoup d'histoires. J'ai découvert beaucoup d'histoires, des fois des histoires qui étaient pas du tout de mon âge. Il m'a lu entre autres Conan Doyle ou Jules Verne, où j'étais très jeune. Kafka même, j'étais encore jeune ado. Enfin, lui peut lui importer mon âge, ce qui lui importait, c'est il était très pris par ce qu'il me racontait, ce qu'il me lisait, et j'étais son public. Mais moi, par contre, ça m'a fait découvrir très tôt tout ce monde d'imaginaire, de création littéraire, etc. Et très vite aussi, à mon tour, je suis devenu un disciple de ce qu'il faisait, c'est-à-dire que je lisais à des copains à voix haute, et puis quand j'ai été pensionnaire, parce que j'ai quand même été pensionnaire 6 ans à Toulouse, j'avais pris l'habitude aussi de raconter des histoires aux élèves. Il y en a même un qui, tout récemment, que j'ai revu il y a pas longtemps, c'était pas vu depuis 50 ans, qui, lui, m'a dit « Ah, rappelle-toi ce que tu faisais quand on était au lycée, le lundi matin, quand tu revenais de week-end, tu nous racontais des films que tu disais que tu avais vus, puis après tu nous disais qu'en fait tu venais d'inventer l'histoire et qu'en fait tu n'avais pas vu le film. Du tout, tu l'avais inventé. » Donc il y avait déjà ce goût
pour la
fiction, des histoires.
Pour faire des
travaux imaginaires. Raconter, de les inventer et de les raconter.
Oui, alors Conan Doyle, tu as mentionné Conan Doyle en premier, pour un auteur qui t'a marqué de manière littéraire. Conan Doyle, si je me souviens bien, c'est l'auteur, le créateur de Sherlock Holmes. Alors, c'est goût pour les polars, pour les histoires, les détectives.
Ce qui m'a marqué, oui, c'est l'image. C'est la première fois que je lisais, à part les livres d'enfants. Mm-hmm. C'était ma découverte avec une littérature pour adultes, mais pleine d'un imaginaire, le chien des Baskerville, etc. J'avais 9-10 ans, là, à peu près, je m'en rappelle pas. Mais c'était la première fois que je découvrais, donc, que l'imaginaire avait une puissance extraordinaire, quoi. Mm-hmm. Bon, chez Conan Doyle, alors lui, il y avait le mystère, il y avait le polar, surtout le fantastique, un peu, hein. Et puis Jules Verne, et puis Maurice Leblanc, je me rappelle, tous les Arsène Lupin aussi, mm-hmm. Ça m'intéressait beaucoup ça. Et puis, je viens de le dire, j'ai été pensionnaire 6 ans. Quand on est pensionnaire 6 ans, à l'époque, hein, on est à la fin des années 50, la télé, tout ça, il n'y a pas. Donc la distraction, c'est les livres. Donc la seule distraction qu'on avait dans la semaine, c'était de lire. Et très vite aussi, je me suis rendu compte, je me suis passionné pour les biographies. C'est-à-dire, dans les bouquins de classe qu'on avait, avant les textes d'auteur, il y avait la vie de l'auteur. Et ça m'intéressait beaucoup parce qu'au fond, c'était une histoire. J'ai découvert comme ça que, voilà, à chaque côté, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'il est arrivé à ce bonhomme? Comment il est, quelle vie il a eu? Alors, ça passait.
Et je saute sur l'occasion, Maurice, parce que justement, en parlant des bios, cette fois-ci, c'est toi qui es dans la grille. Et c'est de toi qu'on va parler sur la bio. Excuse-moi de revenir un petit peu sur Conan Doyle, parce que ça me permet de pouvoir associer la formation. Si je me souviens bien, Conan Doyle a fait ressusciter Sherlock Holmes. Donc, hors antenne tout à l'heure, avec toi, on parlait sur ta formation, parce que tu es un comédien au départ autodidacte, tu t'es formé sans un grand parcours, disons, académique, mais tout seul tu as été ton propre professeur, selon tu m'as dit, et c'était le public aussi qui t'avait envoyé des retours, qui était ton professeur. Alors, Conan Doyle, pour revenir à lui, il a été obligé à ressusciter Conan Doyle grâce à son public. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une espèce d'exemple, une espèce d'écho entre cette formation initiale de ton enfance et après ce que tu as eu dans ta jeunesse, dans les 25-30 ans, que tu n'as pas eu un professeur attitré, mais tu as eu, comme je viens de le signaler, un public qui était ton professeur. Alors comment ça se faisait alors que le public puisse te renvoyer, parce que selon, je connais ici dans la réaction du public vis-à-vis d'un comédien ou vis-à-vis d'un auteur, c'est difficile parfois de renvoyer des critiques constructives ou négatives parce qu'on a peur de blesser la susceptibilité. Alors comment tu pouvais recueillir ça?
J'adore les critiques. Oui. La critique, c'est ce qui forme. C'est
oui,
ça que...
mais toi, comment tu faisais pour recueillir ces... Parce qu'un professeur, il y a un condensé, excusez-moi d'allergir un petit peu ma question, parce qu'un professeur a une structure ou a une pédagogie pour transmettre et pour pouvoir guider quelque part. Mais toi, tu étais comédien amateur et du coup, il fallait que ton professeur, le public... puisse t'envoyer des signaux. Comment tu faisais alors?
Alors déjà, il y a des choses différentes là-dedans. Théâtre et prestation de lecture à voix haute comme je fais, c'est pas la même chose et c'est pas du tout le même métier, j'allais dire. Au théâtre, c'est plus classique, le retour des critiques. Au théâtre, quand même, il y avait des metteurs en scène. Et quand je dis que j'ai pas eu de professeur dans le sens conservatoire. Enfin, quand même, quand je travaillais sur le plateau en répétition ou autre, il y a un metteur en scène, il y a des comédiens collègues qui sont là pour dire ça va pas, on fait comme ci, on fait comme ça, dans le jeu, les déplacements, etc., etc. La lecture à voix haute, c'est un exercice complètement différent. D'autant que je l'ai souvent pratiqué, au début surtout, seul. Je me suis des fois trouvé sur des plateaux, devant certaines scènes nationales, il y avait 300-400 personnes, on est tout seul. Et là, tout seul, il y a personne pour dire, je ne répétais pas sous l'œil d'un metteur en scène ou de qui que ce soit. Donc c'est vraiment tout seul. Et quand je dis que c'est le public qui m'a enseigné, c'est que on sent d'abord, pendant que ça se passe, pendant qu'une lecture a lieu, pendant qu'une prestation a lieu, une salle, on la sent. Hein? On la ressent, on sent un accueil, on sent des lassitudes, on sent qu'au contraire, le public est complètement pris et qu'il est là complètement. Et que donc, ce qu'on veut faire passer passe très bien. Ou ne passe pas bien. Ou le public se distrait, etc. Mais il est vrai aussi, moi j'aime beaucoup les critiques. Tu parlais des critiques, et surtout les négatives. Je veux dire par là que les critiques positives, on n'en a pas tellement besoin. Quand on est bon, on le sait, on le sent. Sauf si on est très vaniteux, qu'on se croit bon tout le temps. Mais enfin bon, bref. C'est pas intéressant ça. Quand on est bon, je veux dire, on le ressent. Le public te le renvoie. Quand t'es bon, tu le sais, il te le renvoie. Quand ça va pas, quand on pense soi-même que ça va pas, moi je demande systématiquement après à des gens en qui j'ai confiance complète, qu'est-ce qui n'a pas été là. Et on me dit en général, qu'est-ce qui n'a pas été là, t'as été trop ceci, t'as été trop cela, t'as mis trop d'emphase, t'en as pas mis assez, on n'a pas senti assez l'émotion, on a trop senti l'émotion, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, même un texte, il m'arrive de dire pour la 27e fois le même texte en public, etc. Ce qui me plaît, c'est que je sais qu'aucune des 26 fois précédentes, j'ai fait la même prestation. Parce que aussi, et c'est ce qui est intéressant dans tous ces métiers d'expression ou artistique, etc., on est soi-même chaque jour quelqu'un de différent.
Maurice Petit. Et je rappelle à nos auditeurs que nous sommes toujours avec Maurice Petit, comédien et directeur artistique de Confluence et Festival Lettres d'automne. Et nous parlons sur les métiers d'acteur, la manière comment on se forme de manière autodidacte et aussi parfois au conservatoire. Donc Maurice, tu viens de mentionner l'importance de tes collègues pour se perfectionner. tu as fait la différence entre lecture à haute voix et le métier d'acteur.
Important.
Donc, et je profite de cette rentrée en scène, parce que ça me fait penser aux petites scènes majuscules, que c'est le titre d'une des œuvres que tu avais commandé à une dizaine d'auteurs. Beaucoup de ces auteurs sont qui deviendraient après, qui vont devenir après des invités pour le Festival Lettres d'automne. Donc, c'est un des rares cas où tu as écrit des choses.
Oui.
Oui. Donc, je voudrais que tu puisses, si tous les contextes, et tout de suite, je t'invite à lire ce texte ou un extrait de ces petites scènes majuscules que tu as fait avec pas mal de tes futurs invités.
Futurs ou anciens?
Oui.
La plupart anciens. J'avais eu l'idée de demander à une dizaine d'auteurs connus d'écrire un petit texte, 3-4 pages, sur ce que j'ai appelé des petites scènes majuscules, c'est-à-dire ces moments majuscules au sens important, où pour la première fois dans la vie d'un enfant ou d'un adolescent, on a tout d'un coup la sensation que ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là est la première émotion poétique que l'on ressent dans sa vie. C'est-à-dire, jusqu'alors, on a été un enfant avec tout, l'école, et tout d'un coup, il se passe quelque chose qui va nous faire comprendre que la vie, c'est pas que le quotidien, c'est pas que le réel apparent, il peut y avoir autre chose. Donc, je peux lire ce texte, si tu veux, que j'ai intitulé « L'île au bois mort ». 60 ans après, toutes les sensations, les images, les couleurs, les bruits de cette matinée demeurent préservés dans ma mémoire. Et par-dessus tout, le sentiment de m'être trouvé pendant quelques heures dans un endroit familier devenu subitement irréel, mystérieux et fantastique. Je peux désormais en fixer la date précise, je viens de la vérifier. 23 juillet 1951. J'avais donc 7 ans. Je me souviens parfaitement que ce matin-là, au cours du petit déjeuner familial, mon père a annoncé « Pétain est mort ». La nouvelle a immédiatement provoqué des réactions très diverses autour de la table, faisant planer au-dessus de nous un gros nuage noir d'où jaillirent éclairs et coups de tonnerre. Ma grand-mère, larme à l'œil, salua aussitôt la mémoire de ce pauvre vieux maréchal qui s'était sacrifié pour la France. Et en écho, mon père évoqua sèchement ce félon qui avait traîné son pays dans la fange. Ma mère, toujours soucieuse d'arrondir les conflits permanents entre ces deux-là, tenta, il a fait ce qu'il a pu, qui les exaspéra également. Ces disputes, toujours courtes et cinglantes, me tenaient lieu d'éducation politique un peu désordonnée. Je quittais la table, tournant le dos à leur chamaillerie. Je n'avais envie ni de jouer ni de lire. Je voulais rester seul, simplement. Je sortis et je me dirigeai vers la plaine. Ce qu'on appelait la plaine était, au-delà de la grande maison et du parc qui l'entourait, une immense étendue de vergers qui s'étendait jusqu'au fleuve la Garonne. Je me promenais souvent parmi ces arbres, dont les branches formaient à leur sommet des voûtes qui me semblaient mener vers un lointain inconnu. Il m'arrivait de m'y perdre volontairement, en zigzagant entre les rangées, tout excité à l'idée de ne pas retrouver mon chemin. Mais la peur m'avait toujours retenu d'aller jusqu'au bout, jusqu'au fleuve qui m'inquiétait. Aujourd'hui encore, j'ai conservé cette attirance pour les forêts et leurs mystères. Ce matin de juillet, sans que j'aie vraiment décidé de faire une fugue, et peut-être avec la seule idée d'inquiéter les miens pour les punir de leurs disputes qui me meurtrissaient, j'ai voulu aller cette fois jusqu'au bout, jusqu'à Garonne. Et si je devais me perdre, eh bien qu'ils me cherchent. J'ai dû mettre une bonne demi-heure pour y arriver, en me racontant des histoires à voix haute, comme je le faisais souvent, pour meubler l'ennui ou conjurer la peur. J'atteignis enfin la berge, dont les bords effrités s'étaient effondrés dans l'eau tourbillonnante. À cet endroit, le fleuve très large forme une courbe et les courants viennent mordre la rive. Je fis quelques pas en m'éloignant du bord de l'eau, au-dessus de laquelle flottait encore à cette heure un épais brouillard. Ainsi, le paysage tout alentour se composait de formes étranges, fantasmagoriques. Ni l'eau elle-même, ni les arbres alentour, ni les collines au loin ne ressemblaient au fleuve, à la végétation, au relief qui m'était familier, mais alors à des compositions abstraites formant un ensemble que je savais réel, mais qui tout d'un coup me paraissait tout autre, magnifique et un peu inquiétant. J'aperçus en aval le pont de Mauvert que je traversais tous les jours à vélo, mais qui à ce moment-là me sembla surgir de nulle part, comme une bien étrange construction dont je n'apercevais que le tablier et le sommet arrondi des arches. Les piles qui soutenaient le pont avaient disparu et il semblait naturellement posé dans l'air au milieu de la brume. Je m'émerveillais, mais en tremblant un peu. De froid, peut-être, de saisissement surtout. Étais-je vraiment ici? Je veux dire l'ici des autres jours? Ou se passait-il quelque chose d'anormal, d'extraordinaire? J'avais eu beau rêver d'évasion, de fugue, marquer le coup, j'étais en train de perdre mes repères et mes petites certitudes. Je portais alors mon regard vers la rive d'en face. Seuls dépassaient les cimes des peupliers comme pointe de baïonnette d'une armée fantôme et végétale. J'ai ces images en tête comme d'hier. Il me semblait habiter un rêve et me trouver si loin de la maison et du parc familier. J'ai poursuivi ma marche, et plus loin il me sembla que le fleuve se rétrécissait jusqu'à n'atteindre que 4 ou 5 mètres de large. Sur la rive d'en face, toute proche, je distinguais, posés sur les galets, d'étranges objets aux formes torturées. Me rendant compte alors que j'avais devant moi un bras mort du fleuve, dont la profondeur n'était ici que de quelques centimètres, je décidai d'aller voir de plus près, de l'autre côté. Je retirai chaussures, chaussettes, relevai mon pantalon, pris pied sur les galets et traversai. Et je découvris alors que ces étranges sculptures étaient des branches et des racines de bois mort, auxquelles l'eau, les remous, les courants, les cailloux, avaient donné ces formes superbes, déchiquetées, fragiles, si fragiles. J'en ramassai une pour la ramener avec moi et me souvenir là-bas, d'ici, de ce moment. J'ai ressenti ce matin-là qu'ici, on pouvait être ailleurs, qu'il y avait un ailleurs dans tous les « ici », que le réel, parfois, s'habille de songes, que le mystère rôde partout et qu'il a de superbes ruses pour nous saisir. Fuyant une dispute d'adulte qui m'avait rendu sûrement disponible à un tel émerveillement, j'ai, sans me le formuler, fait ma première rencontre avec la poésie. Mais ça, je ne l'ai compris que plus tard. Il faut garder en soi une part de disponibilité pour accueillir la poésie. « Où étais-tu passé ?» m'a demandé ma mère. Oh, bien sûr, j'ai gardé le secret. 25 ans plus tard, revenant sur les lieux de mon enfance, j'ai eu envie de refaire cette promenade avec une amie à qui j'avais parlé de cette île au bois mort. Eh bien, je ne l'ai pas retrouvée. Le fleuve l'a-t-il englouti? L'ai-je rêvé? Je sais bien que non, mais elle flotte toujours en moi. Quant à la branche qui témoignait de ce moment, elle aussi a disparu lorsque j'ai quitté la maison en 1967.
Thank you.
Voilà, j'ai choisi donc ce troisième mouvement, Allegro, du concerto pour piano et orchestre numéro 4 de Jean-Sébastien Bach. Tout à l'heure, je disais que quand on était au pensionnaire dans un établissement comme celui que j'ai fréquenté, gosse, il y avait deux distractions. C'était lire et écouter de la musique. Et il ne nous faisait écouter que de la musique classique. C'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de choses. Entre autres, Bach. Là, on a affaire, on vient d'écouter deux génies, à la fois Bach et Glenn Gould. Hein, Glenn Gould qui a été ce pianiste qui n'a vécu vraiment que pour la musique, que dans la musique, jamais de concert public. Hein, il avait renoncé à tout ça. Il enregistrait simplement. Presque jusqu'à la limite de la déraison, lui, Gould, mais Gould, pour Gould, Dieu, c'était Bach. Hein.
Mais on va parler de la déraison, justement, parce que parmi les choix des plasticiens que je t'avais demandé de faire en tant qu'homme de littérature, homme de théâtre, tu as choisi plusieurs peintres. Et j'étais étonné que les deux premières que tu as mentionnées, Maurice, c'était deux peintres qui sont opposés au même temps convergents. C'est-à-dire, je t'ai mentionné Vincent Van Gogh et Nicolas Destel. Donc, je préfère parler de Nicolas Destel parce que je pense que Vincent Van Gogh il est très très connu, c'est assez répandu. Donc, on va parler plutôt de Nicolas Destel. Mais avant ça, je voulais faire un parallèle et aussi la convergence. C'est-à-dire que tous les deux ont eu une fin tragique, tous les deux se sont suicidés, mais l'autre, manière de vivre, c'était complètement à l'opposé, parce que Van Gogh n'a pas vendu un seul tableau de son vivant, et en revanche, Nicolas Destel, il a vendu beaucoup, même une production superbe.
Oui, il a surtout vendu après sa mort. Hein.
Mais Nicolas Destel, il était déjà dans les années 40.
Oui,
il était déjà connu à New York.
Mais ça, c'est pas ce qui lui importait, lui, hein, de vendre.
Ah oui, non, c'est pas ça. Alors, comment tu as rencontré Nicolas Destel?
Je connaissais pas la peinture de Nicolas Destel avant de rencontrer René Char. Puisque j'ai eu cette chance de rencontrer donc le poète René Char. Lui-même, je l'ai rencontré à une époque où je travaillais beaucoup sur Camus. Camus m'intéressait beaucoup. Déjà, René Char a été un des amis les plus proches de Camus. Et j'ai correspondu d'abord pendant quelques années avec Char. Et puis un jour, où j'étais dans son coin de Provence, près de l'Île-sur-Sorgue, je lui ai dit que j'étais parlé. Il m'a dit, mais venez me voir, etc. Donc, j'ai été chez lui. Et chez lui, quand on rentrait chez René Char, c'était un véritable musée. Char a été très proche de peintres comme Braque, Léger, Miro, Matisse, de Stahl, etc. Je lui ai même demandé très bêtement, comme on fait quand on est timide la première fois qu'on voit quelqu'un qui vous intimide énormément. La seule chose que j'ai trouvé à lui dire, c'est, je lui ai demandé si tous ces tableaux étaient des vrais. Il a souri, gentiment. Il m'a dit, en tout cas, ils m'ont été offerts comme tels. Ce qui veut dire que ces peintres-là lui avaient offert ces tableaux-là. Et donc, il y avait plusieurs Nicolas de Stahl qui m'ont tout de suite frappé. Surtout, c'était la série des toiles sur la Sicile, Agrigente, etc.
Ah oui,
dans les verts et les noirs.
Oui,
c'est la fin. Il l'a connu 10 ans à peu près, vers la fin. Et je connaissais pas ça. Et il m'a parlé de son amitié avec Nicolas de Stahl, de la fin tragique de Stahl, donc qui se suicide à Antibes. Tout simplement parce que de Stahl, qui cherche toujours à atteindre la perfection, bien sûr, ne la trouve jamais. Désespéré totalement, alors qu'il va pour la première fois, c'est ça qui est quand même étonnant, il s'apprête à faire une énorme exposition à Paris, probablement la plus importante qu'il ait jamais faite, il se suicide quelques jours avant, comme s'il était bourré de doutes par rapport à ce qu'il va montrer.
Oui, mais la presse a dit à l'époque que c'était plutôt par un amour contrarié.
Ah, il y a eu ça, oui, ah, parce que de Nicolas Destal et ça aussi, c'était un amoureux fou. Il a eu plusieurs amours, mais chaque fois c'était des passions totalement déchirantes. Ça l'a sûrement beaucoup déstabilisé, cette histoire d'amour contrarié, comme tu dis, gentiment. Ça n'a pas aidé à le stabiliser, mais qu'est-ce qui aurait stabilisé un homme pareil? Je sais pas.
Oui.
Est-ce qu'il était en quête de stabilité d'ailleurs? Je sais pas.
Quand il est mort, il me semble avoir entendu dire que il avait trop peint. Une de ses déclarations disait, peut-être que je peins. J'ai trop fait la peinture.
Il était surtout sur un énorme tableau qui, si mes souvenirs sont bons, s'appelle l'orchestre, qui n'est pas terminé.
Ah oui, non, c'est le dernier, justement, voilà. Il était incomplet.
Qui n'est pas fini.
comme Schubert.
Qui lui a causé beaucoup de soucis. Bon, enfin, bref, la symphonie, les vraies raisons, peu importe. Mm-hmm. Toujours est-il qu'il est passé par la fenêtre.
Oui, oui, oui. Et pour décrire un petit peu la peinture d'Estelle à nos auditeurs, et disons que c'est un style qui a évolué de l'abstrait au figuratif, contrairement à ce qui arrive à pas mal de peintres contemporains.
Une forme de figuratif.
Une forme de figuratif, oui. Parce que c'est la réalisation. On peut identifier les formes, mais sont des formes assez simplifiées. Et il donne la priorité à la couleur, à l'empattement.
Il y a un travail de couleur extraordinaire.
Oui. C'est très, très, très frappant. Donc, j'invite à tous nos auditeurs à qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir la peinture de Nicolas d'Estel, que tu as connue aussi. Alors, quelle impression ça t'a donné?
Non, je ne l'ai pas connue. Ah, tu ne l'as pas connue. Je ne l'ai pas connue. Charles m'a beaucoup parlé.
Quelle peinture?
Mais non, quand j'ai rencontré Charles en 76.
Ah oui, il était déjà bien mort.
Estelle était mort depuis 20 ans.
Oui. Bon.
Mais c'était, ça avait été quelqu'un qui avait, t'es un compagnon très proche de René Char.
Oui. Je profite de l'occasion qu'on parle de la vie d'un peintre, de la vie d'une célébrité comme Nicolas d'Estelle, parce que il y a beaucoup de mystifications autour de son œuvre, de sa vie. Tu vois comment l'étude, l'analyse de son travail, parfois il est pollué ou parasité par la presse scandale ou la presse people. Et j'ai une critique.
Parce que c'est un personnage hors du commun. Oui, comme Van Gogh d'ailleurs.
Oui, mais je vais citer Olympe de Gouges, parce que c'était une de tes œuvres. Olympe l'a insoumise, que tu as présenté en 2013 avec la complicité de l'orchestre baroque Les Passions de Montauban et le théâtrophone. Et quand j'ai assisté à cette œuvre, une impression que j'ai eue, bon, d'abord, j'étais frappé par la bonne harmonie entre la lecture et la musique, et la scène surtout, parce que vous l'avez présenté comme si c'était une lecture concert, mais au fait, il y a un travail de mise en scène, un travail.
Oui, oui. Et puis on avait beaucoup travaillé le texte, ce qui fait qu'on le savait quasiment par cœur, il nous arrivait de faire semblant de lire.
Voilà. Et, bon, tu as avancé ma critique parce que, bon, tu m'as volé la.
Ah, pardon.
Oui. Mais, alors, je vais inventer l'avocat du diable, alors. Et qu'est-ce que je pourrais te dire de négatif? Alors, ça y est. Et j'ai l'impression, les toutes premières minutes, que tu présentais une lampe de gauche, pas tout à fait insoumise dans les champs politiques ou dans les champs de ces affaires, entre guillemets, révolutionnaire qu'il y avait avec Robespierre, avec toute la clique du pouvoir de l'époque. Mais on commence avec des regards mondains, comme si c'était la presse people, c'est-à-dire l'Olympe de Gouges qui vient parler de tout et de rien, mais pas l'Olympe de Gouges engagée de manière littéraire ou politique, mais plutôt dans les affaires people de l'époque. Disons des ragots. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette critique à improviser?
Ben, je vois pas très bien de quoi tu parles là.
Mais lorsqu'elle parle des ragots, qu'est-ce que se passe à Montauban, qu'est-ce que se passe à Paris?
Ah, mais non, mais c'est parce que.
Ah ben. Voilà.
Oui, mais alors là, faut que je raconte un peu plus.
Oui, voilà. C'est pour ça
pour ce spectacle.
Oui.
Qui était un spectacle qui était écrit et réalisé pour le pays montalbanais. J'avais des choses quasi imposées. Il fallait que ça se passe à Montauban. La situation de l'histoire, ça devait se passer à Montauban. Et il s'agissait donc de raconter l'histoire d'Olympe, en particulier son enfance, et j'avais un orchestre avec moi. Il fallait que je fasse un lien entre que venait faire cet orchestre dans cette histoire, donc le personnage de Bonnet, joué par Andrieux, a bien existé, etc. Bon, l'idée que j'ai eue, c'est de faire raconter par Mercier, ami d'Olympe à Paris, qui après son exécution a envie de mieux comprendre ce personnage et vient se retremper dans l'univers d'enfance d'Olympe à Montauban. Et il a envie que quelqu'un lui il sait rien sur l'Olympe jeune. Il a envie que quelqu'un lui raconte qu'est-ce qui s'est passé ici, l'histoire avec Lefranc, etc. De Pompignan. Et il tombe sur Bonnet qui va lui raconter l'enfance d'Olympe. En contrepartie, Bonnet lui dit. On se resitue dans l'époque, c'est tout à fait plausible. Bonnet lui dit, mais vous savez, moi, elle, ce qui s'est passé à Paris, j'en sais pas grand-chose. Si ce n'est qu'elle a fait pas mal de scandales et qu'elle vient de mal finir. Mais à part ça, il faudrait que vous me racontiez un peu mieux. Donc, je crois que je comprends à quoi tu fais allusion. Je raconte les moments où, arrivant à Paris, Olympe, elle a quand même une obsession. c'est d'arriver très vite, d'arriver avec un A majuscule, d'arriver très vite dans sa passion à elle, qui est d'écrire, et qui petit à petit va être de se battre, parce que la révolution, elle va arriver quand même assez tard dans la vie d'Olympe. Bon, et donc, si aujourd'hui on dirait des réseaux, mais à l'époque il n'y avait pas les réseaux, à l'époque il y avait les salons. Donc très vite, elle fréquente les salons pour vite avoir beaucoup de relations, arriver à être jouée vite. Donc c'est Madame de Montesson, c'est tous ces grands salons là. Je pense que c'est à ça peut-être que tu penses.
Je fais référence.
Tu parles des
ça.
People. Ouais. Ces gens à l'époque, c'est pas des people. Hein. C'est des gens très importants dans les allées du pouvoir. Ils sont connus. Des allées du pouvoir, pas du tout du reste.
Oui, mais
du
c'était
reste
les
gens
de l'époque, parce que les restes des gens, ils ne vivaient pas, ils n'existaient pas.
Mais où tu veux en venir là?
Mais je vais venir à cette critique sur l'importance de la vie prosaïque, disons.
Même
et non les côtés littéraires ou les côtés plutôt des réméditations.
Alors
la
le côté littéraire d'Olympe,
oui. Voilà.
Bon, c'était pas le sujet du spectacle de Olympe, elle a écrit des choses, il suffit de les jouer. Elles sont pas jouées, hein. Elles sont pas jouées parce que c'est injouable. Bon. Ce qu'elle a écrit de plus intéressant, c'est sous forme d'essais. C'est des lettres aussi, entre autres. Ou des diatribes qu'elle adresse à un tel et un tel quand elle est très en colère sur l'esclavage des Noirs, sur ceci, sur cela, sur la liberté la condition faite aux femmes, etc., etc. Oui. J'ai voulu raconter les contextes dans lesquels elle a écrit, beaucoup plus que qu'est-ce qu'elle a écrit. Parce que ça, il y a d'autres spectacles là-dessus. Bon.
Merci Maurice pour cet apport pour pouvoir revoir et revisiter Olympe de Gouges.
Merci d'être critique, puisque j'ai dit tout à l'heure que je les aimais.
Donc, puisque tu parles des diatribes, les rapports avec les pouvoirs, les renvois d'ascenseur, parce que c'était les salons qui c'était les renvois d'ascenseur ou les réseaux, je vais citer un auteur qui t'a beaucoup marqué. Je parle de Jacques Brel. Parce que moi, je suis sensible beaucoup aussi à Jacques Brel. Je voulais te faire lire un texte, mais je ne vais pas te faire lire un texte à moi. Je préfère que tu le choisisses après. Et c'était L'Homme de la Manche. C'est la fin 68. Mais en fait, c'est une comédie musicale qu'il a mis aux États-Unis, qu'il a adaptée en français. Et Jacques Brel m'a beaucoup frappé sur ce texte, Rêver, un impossible rêve, et tout ce qui vient après. Et illustre-moi, Maurice, puisque tu connais bien Brel, est-ce que ce texte de Jacques Brel était entièrement à lui ou c'est lui qui avait traduit parce que...
Tu parles de L'Homme de la Manche?
L'Homme de la Manche.
Non,
oui.
C'est lui là.
C'est lui. Entièrement lui.
Il récupère ce qui a été fait par les Américains.
Oui.
La musique, elle est faite, etc.
Oui.
Il brélise, si je puis dire, complètement. Il détourne complètement. Il réécrit complètement. On le sent. Il n'y a qu'à écouter Brel. On comprend bien que c'est de Brel, hein.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bières et de drames. Première lueur, mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg d'ailleurs, enfin, ils
boivent aux dames, qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Alors, donc, c'est vrai que j'aime beaucoup Brel depuis très 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 longtemps. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est en 61. Et puis, j'avais d'abord créé un spectacle dans lequel je ne faisais que dire du Brel. Et puis, il y a des musiciens qui m'ont poussé, qui m'ont essayé de me convaincre de le chanter. J'ai succombé. J'ai succombé parce que j'avais une trouille monstre, j'avoue, chanter Brel. Enfin bref, et surtout Amsterdam en particulier. Mais enfin bon, on en a fait un spectacle qui avait été donné, qu'on avait d'ailleurs donné ici dans le cadre du festival Alors Chante. Comme plus tard, j'aime beaucoup les textes de chansons, les bons. Comme plus tard, donc j'en ai créé un autre sur des textes de Nougaro. Mais Brel, ça avait été, on a des chocs adolescents. Brel, la première fois que j'ai été le voir à Toulouse, dans la cour de l'hôtel d'Acesa, pas bien grande, hein, en 61, il y avait pas foule encore. Je le connaissais pas du tout. C'est un copain qui me dit, tiens, viens, on va voir Jacques Brel. Lui, il avait entendu Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je l'avais entendu, ça m'avait particulièrement gonflé. Il n'avait pas du tout aimé. Et je l'aime toujours pas, d'ailleurs. Cette espèce de se vautrer comme ça, etc. Non, j'avais pas du tout aimé ça. Et puis, j'étais le voir. Et là, un coup de poing à l'estomac. Ce que dégageait ce type sur scène, c'était absolument extraordinaire. Ils étaient que trois, quatre sur scène. Piano, basse, accordéon, ouais. Et puis surtout, j'ai entendu la qualité des textes qu'il était en train de balancer, que je me suis dit, c'est magnifique, ces textes-là. D'autant que c'était l'époque où on comprenait très bien ce que chantaient les chanteurs. Il articulait très très bien. Donc on pouvait apprécier énormément. Et très, après, je l'ai suivi tout du long. Oh, j'aime pas tout, je suis pas idolâtre. Hein. J'en aime. Mais ce que j'aime, je trouve qu'il a, dans certains registres parfois, surtout dans les registres impressionnistes, quand il dresse de grands tableaux, il a une plume absolument magnifique.
Maurice Petit, cet enregistrement que vient d'entendre, cette interprétation de Brel par toi, je répète à nos auditeurs, c'est bien Maurice Petit qui chante Brel.
Sans doute.
Tu l'as fait quand?
Ça a 3 ans à peu près. Hein? À 2009. 10, 11, 12. Ah, ça a 5 ans. Ça a 5 ans.
Oui. Et dis donc, je connaissais pas ces qualités de chanteur que tu avais, Maurice, parce que...
Modeste.
Mais quand même. Et la première chose que j'ai remarqué chez toi, c'est ta maîtrise du silence que tu as. C'est-à-dire, c'est ta diction d'abord, bien sûr, parce que pour lire une haute voix, il faut se faire comprendre. Tu lis très bien, tu le sais bien mieux que moi, que tes capacités. Mais ce qui m'a frappé à toi, c'est ta manière de maîtriser les silences.
C'est très important ce que tu dis là.
Oui. Donc, et du coup, je me suis dit, on a un acteur professionnel, un comédien, parce que je t'ai écouté avant de te connaître personnellement, 90.
Déjà? Et,
oui, déjà, je t'ai montrebané par adoption.
J'espère avoir fait des progrès depuis, justement, quand je parlais tout à l'heure au début des, ah oui, des retours du public. Je pense que je réécouterai jamais, moi, c'est des enregistrements de 90.
Mais alors, 90, mais c'est on parle d'une date qui a basculé pour toi, oui, en tant que créateur du festival. Oui. Donc, j'aimerais que tu racontes comment s'est créée cette aventure, qui c'est ton œuvre.
Aventure qui est devenue, si on peut l'appeler ça comme ça, c'est vrai, une œuvre. Si on peut appeler l'aventure culturelle du festival L'Aide d'automne une œuvre, mais pourquoi pas, hein? C'est une création aussi, cette histoire. Bon, bref, effectivement, elle commence par hasard. Je te le disais tout à l'heure, je me suis pas levé un matin en me disant je vais créer un festival littéraire, pas du tout. J'ai tout simplement eu envie une année de faire une petite semaine autour de l'œuvre de Camus à Montauban, à la bibliothèque municipale à l'époque. Avec, je me souviens, avec François Chaumette qui était venu jouer la chute, enfin bon, il y avait des spécialistes de Camus, dont Jean Daniel qui était venu, etc. Et puis tout le monde m'a dit, mais pourquoi vous continuez pas ça? C'est intéressant, les expositions, j'avais créé une expo importante, qui tourne toujours d'ailleurs. Les lectures, vous pouvez accueillir un public étudiant aussi, faire des lectures le soir, etc. Ça m'a tout de suite été demandé en tournée, par des directeurs de théâtre. Donc petit à petit, alors ça s'appelait pas L'Aide d'automne, hein, la première année Camus, ça s'appelait rien du tout, ça s'appelait Présence d'Albert Camus, je crois, pas très original, mais c'était ça. C'est devenu L'Aide d'automne la deuxième année quand j'ai travaillé sur Giono. C'est-à-dire que les premières années j'ai travaillé sur des auteurs disparus, Camus, Giono, Prévert, Vian, Malraux. À partir de 96, j'ai travaillé pour la première fois avec un auteur vivant qui était Georges Semprún. Jorge Semprún, dirait les
hispanophones.
Et à partir de là, je n'ai plus cessé. Donc, avec toujours le même concept, hein, on invite un auteur principal qui reste pendant 15 jours, c'est très long, 15 jours au théâtre à Montauban. On explore toute son œuvre sous des formes très diverses, rencontres, débats, lectures, spectacles, etc. Mais cet auteur-là a lui-même carte blanche pour inviter qui il a envie d'inviter, des gens qui l'ont marqué dans son parcours. Et c'est grâce à cette double carte blanche d'une part, son œuvre à lui d'autre part, qu'on finit par composer un portrait, si je puis dire presque, un portrait de lui-même et par amitié aussi. Parce que souvent, un être, on connaît mieux quelqu'un quand on connaît ses amis aussi, voir comment ils s'entourent, de qui ils s'entourent, etc. Forme de jeu de miroir. Et donc, y a en général, on finit chaque année, en gros, avec, ils sont entre 60 et 80, soit écrivains, artistes, parce qu'un auteur, je lui demande pas forcément d'inviter d'autres écrivains. Des gens qui l'ont marqué, ça peut être des peintres, ça a été souvent le cas, ça peut être des musiciens, ça peut être des tas de choses, très diverses. Il y en a une année qui avait invité son ancien prof de lettres. Parce que c'est lui qui l'avait marqué, c'est grâce à lui qu'il pensait qu'il était devenu écrivain. Bon, bref. Voilà, donc l'aide d'automne, ça a commencé en 90, ça continue en 2014, voilà, ça fait 24 ans, ça s'est beaucoup, beaucoup étoffé depuis. Au début, ça durait une semaine, maintenant c'est 15 jours. C'est un des festivals littéraires les plus longs en France, mais ça intéresse évidemment beaucoup les auteurs, surtout l'auteur principal. Pour un auteur principal, l'auteur principal invité, c'est sûrement la rare fois dans sa vie où il a 15 jours.
À lui tout seul.
Mais à lui tout seul. Oui, voilà. Alors, soit ça les effraie. Au début, certains me disent, mais non, mais qu'est-ce que je vais raconter pendant 15 jours? Et puis c'est trop. Puis le rapport au public, j'aime pas ça. Bon. Mais enfin, on a eu peu de refus quand même.
Alors, comment tu fais? Ou comment vous faites dans l'association pour choisir, décider un invité ou une invitée?
Oui. Eh ben, on choisit sans le connaître personnellement lui. On choisit une œuvre d'abord. Ensuite, en général, chaque année, on met deux ou trois œuvres sur le tapis. Et on se dit que le choix va se faire entre ces deux ou trois-là. On les approche ensuite. C'est-à-dire, on va vers eux, on se renseigne aussi par rapport aux éditeurs. Il y a des fois des éditeurs qui nous disent, c'est pas la peine. C'est quelqu'un qui est allergique aux prestations publiques, c'est quelqu'un d'ingérable. Non, faites pas ça, 15 jours avec lui, ça va être le martyr. Bon. Maintenant on connaît quand même pas mal de monde dans le milieu littéraire, on nous dit, ça doit être intéressant. Bon, bref. Donc, on va les voir, hein. Je pense à celui de cette année, on est allé le voir il y a maintenant, en février, je crois, la première fois. Puis maintenant, ce qu'il y a quand même, ça c'est le bénéfice de 24 ans, ils ont entendu parler plus ou moins de ce qu'est le festival par d'autres. Donc,
votre notoriété, alors, ça facilite, hein, les
contacts. Facilite. Ça, maintenant, c'est sûr. On commence à travailler avec eux à partir du mois de février-mars, voilà. On se débrouille pour qu'en général, fin juin, le programme soit bouclé. On se laisse l'été pour éditer les programmes, en faire tout ce qui est
administratif.
Chaque année, les programmes, c'est des vrais bouquins. Je sais plus les pages, mais je crois que c'est près de 50. Bon, bref. Et puis mettre en place tout ça. Et donc, pendant le festival, je continue quand même un peu, je me garde chaque année, et je continue à faire un peu mon métier quand même, maintenant qu'il est devenu plus lecteur que comédien d'ailleurs. Mais de moins en moins seul, je m'entoure de plus en plus, avec d'autres comédiens, avec des musiciens, ça m'intéresse beaucoup. Cette année, je crois que je vais participer au moins à deux ou trois des soirées. Pas plus.
Oui, on va en parler un peu plus dans la dernière partie de notre émission pour rappeler les dates, les interventions. Mais je voulais te poser une autre question par rapport au festival, et ou plutôt par rapport aux autres invités précédents. Donc, je remarque, bien sûr, que ton choix ou votre choix est plutôt méditerranéen. C'est-à-dire, bien sûr, c'est francophone, non? C'est la base de votre festival. Et il y a eu Camus, 2013, mais aussi hispanophone. 2010 était
Et ah, des hispanophones. Mais il y a eu pas mal de gens d'origine étrangère, hein. Mais c'est le hasard. Mais c'est pas ça qui m'intéresse particulièrement. Il y a eu Del Castillo.
Del Castillo.
Espagnol. Il y a eu André Chédid, libanaise. Il y a eu Enis Corrigata, libanaise. Il y a eu Alberto Ruiz Sanchez, mexicain. Il y a eu Nancy Houston, Canada.
Oui, Alberto Manguel.
Alberto Manguel.
Argentin.
Argentin de nationalité canadienne. Bon, c'est plus compliqué. Oui. Mais j'avoue que, on cherche pas cet exotisme-là particulièrement. Cette année, c'est Hubert Haddad. On en parlera plus tard.
D'origine tunisienne.
D'origine tunisienne. Il a quitté la Tunisie il y a 3 ans. Il se sent pas des racines tunisiennes extraordinaires. Hein.
Oui.
Bien que c'est toujours inscrit quelque part quand même, ne serait-ce que par les parents et le milieu. Hein. Mais j'avoue que c'est d'abord une œuvre qui nous intéresse.
Et surtout, il me semble...
Parce qu'on nous a déjà dit ce que tu dis.
Il me semble que aussi vous faites exprès de ne pas choisir un auteur à la mode. Vous évitez, et ça tu l'as pas mentionné tout à l'heure.
Ça oui.
Oui. Vous évitez, disons, les coups de la grosse tête d'affiche qui fait les buzz, comme on dit actuellement. Du coup, vous...
Non, les buzz et les buzz, c'est pas pareil. Fais attention à ta prononciation.
Merci, j'ai un professeur ici, en direct. Merci, Maurice.
Si je dis à un auteur qu'il est plein de buzz, qui fait le buzz, il va me regarder d'un seul œil.
Alors, vous évitez, cheval, ou naviguer, ou surfer sur une actualité tapageuse.
Mais c'est pas intéressant d'inviter un auteur très connu, il a pas besoin de ça. Et le public non plus, il le connaît, puisqu'il est très connu. Et c'est pas parce qu'il est très connu qu'il est très bon. Bon, bref. Non, moi, ce qui nous intéresse, c'est le cas d'Hubert Haddad cette année. C'est des grands écrivains, peu connus, peu médiatisés. Mais alors, dans le milieu littéraire, très souvent, très connus, très établis, moins connus du grand public, parce que, je pense à Hubert, hein, cette année, à Hubert Haddad. C'est quelqu'un qui est allergique aux mondanités, aux... Il y a des écrivains qui donnent d'eux-mêmes pour être quand même inscrits dans le milieu littéraire et qu'on parle d'eux. Passer à la grande librairie, ça se fait pas tout seul, par exemple. Hein. Il y en a.
On va parler un peu.
Il y en a, ça les intéresse pas.
Parce qu'il nous reste une petite pause musicale.
C'est pas leur truc.
Oui.
Oui.
On va écouter et on reprend.
Qu'est-ce que c'est? Allons-y. Assis sur un banc devant l'océan, devant l'océan égal à lui-même, un homme pensif se masse les tifs, interrogatif, quoi pense-t-il? À quoi pense-t-il, livré à lui-même? Il pense à son île, l'Hélène. Est-ce que l'île l'aime? Assis sur un banc devant l'océan, l'océan jamais tout à fait le même. Dans le bruit lascif autour des récifs que la vague enchaîne, à quoi rêve-t-il l'éternel bohème? Il rêve à une île dont le littoral a le pur profil de l'amour total. Assis sur un banc devant l'océan, devant globalement la terre tout entière, qui chamène en terre ses haches de guerre, ou si peu, si guère, que c'est faire semblant. Il pense que le vent fraîchit sur sa joue, il pense que l'amour sait vous mettre en joue. Il pense surtout devant l'océan, belle esclave bleue qui remue ses chaînes. Il pense à son île Hélène. Est-ce que l'île l'aime? Pense-t-elle à son île? Cette chanson s'appelle « L'île Hélène ». Le jour de cet enregistrement, j'étais particulièrement ému, ça s'entend peut-être, parce que devant moi, il y avait l'Hélène en question, qui était la femme de Nogaro, donc à qui il avait, au sujet de laquelle il avait écrit cette chanson d'amour.
C'était en 2000...
Ça, c'est pas vieux, il y a deux ans.
Il y a deux ans, 2012.
Peut-être.
Et donc, Maurice Petit interprète Nogaro avec le titre « Hélène ».
Devant... Autre bel auteur, autre beau poète.
Oui, devant Hélène, justement. Et bien, nous reprenons donc Maurice, justement, la 24e édition de Lettres d'automne. Tu nous parlais sur cet auteur. Et pour continuer à développer la présentation de cet auteur, Huber Abraham Haddad. Oui. Et juste avant, je fais une petite parenthèse, parce que comme tu aimes l'art contemporain, et lui, il est peintre aussi, il est artiste, Huber Haddad, je voulais passer une annonce à nos auditeurs, parce que, et pour toi aussi, j'espère que tu puisses aller à Causade, il y a une exposition qui dure jusqu'au 4 mai, c'est une exposition d'art contemporain, dédiée au dessin, estampes et toutes les expressions contemporaines graphiques. Ça se passe à la Moutardière, à Causade, et donc c'est jusqu'au 4 mai encore. Les artistes qui participent sont Isabelle Castelli, Catherine David, Mélanie Gabu, Philippe Isandou, Éléonore Klenker et Fé Martin. Donc, Fanny Martin, donc, qui s'appelle artistiquement Fé Martin. Donc, notre auteur, dont nous parlions tout à l'heure, Huber Haddad, et artiste peintre aussi, illustrateur aussi. Alors comment ça se fait que tu as découvert cet auteur, Maurice Petit ?
Huber Haddad, il y a longtemps que je connais ses livres. C'est une œuvre énorme. C'est quelqu'un, alors vraiment, qui écrit tout le temps, et qui ne vit que là-dedans. Enfin, j'exagère un peu. Mais enfin, c'est vraiment... jamais vu quelqu'un, un écrivain, autant se donner à ce qu'il écrit. Il y a un moment qu'on pensait à lui, cette année donc on l'a approché, il a été d'accord très vite. À vrai dire, on remettait un peu ça à chaque fois parce que moi ce qui me faisait peur c'était l'énormité de l'œuvre. Comment on va arriver à rendre compte d'une œuvre aussi multiple? Alors multiple, quand je dis multiple, ça veut dire il y a tous les genres littéraires dans son œuvre. Essais, poésie, théâtre, romans, etc., etc. C'est un des papes de la nouvelle, ce qu'on appelle l'école de la nouvelle fiction, etc., avec Château-Renaud, avec Michel Lebris, etc. La littérature monde aussi. On va avoir cette année beaucoup d'auteurs, d'origine étrangère. Et dont Michel Lebris. Michel Lebris, qui est le patron du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. C'est un festival littéraire qui reçoit un responsable d'un autre festival littéraire. C'est toujours intéressant. Et Huber Haddad, puisque cette émission sera diffusée dimanche, voilà, non, parce qu'il vient aujourd'hui à Montauban, mais aujourd'hui vendredi. C'est le hasard, hein. La librairie La Femme en Art l'avait invité pour son dernier livre, La théorie de la vilaine petite fille, c'est le titre. On va en profiter pour le présenter au public.
Oui. Alors, cet auteur Haddad, Huber Haddad, quand tu parle de la nouvelle, j'ai pas bien retenu la nouvelle fiction, mais c'est plutôt la fiction polar, non?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, c'est, il a choisi, comme, on demande chaque année à l'auteur de choisir un thème.
Oui.
Un thème qui va traverser tout le festival, y compris pour toute la programmation jeune public. Il a choisi comme titre la condition magique. Pour lui, la condition magique, c'est tout simplement, je crois, le fait d'être en vie. Il a écrit quelque part « être mes phares ». Déjà, le fait d'être, d'exister. Mes pattes, mes phares. Oui. Bon, la condition magique d'être vivant, elle est magique à condition de le ressentir, évidemment. Et on peut pas la ressentir en permanence non plus. On oublie quand même aussi souvent, c'est vrai, qu'être vivant est déjà en soi une condition magique. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit là. Bon, rien ne le justifie en soi, quelle que soit la vanité des uns des autres. Mais enfin, leur présence n'était pas indispensable. Pas tous. Donc c'est à partir de tous les pouvoirs de l'imaginaire ensuite qui découlent de cette condition magique.
Bien. Une autre question que je voulais te poser, Maurice, je ne sais pas s'il nous reste encore deux petites minutes, et c'est un petit peu difficile à développer.
Et enfin, la, après coup, vous vous rendez compte si un auteur a été plus dynamique, plus, bon, c'est une question un peu gênante pour les autres, parce que quand je vais te faire parler d'un auteur qui m'a beaucoup frappé, et par sa participation, par son engagement avec le public, participer à tout.
Je sais qui,
mais je parle de Jeanne Benhamou. Alors, bon, ça c'est une vision, moi, en tant que public, mais pour vous, Confluence, pour vous, Lettres d'automne, qu'est-ce que ça, et qu'est-ce qui, quelles sont les conditions pour dire, bon, cet auteur, il était très bien? Je ne parle pas de son œuvre littéraire,
alors,
je parle de son œuvre en tant que festival.
Quand il arrive à Montauban pour le festival, déjà, on le connaît bien, on l'a vu souvent. Parce que de mars à novembre, on le voit souvent. On travaille beaucoup ensemble, on le voit souvent. Donc, il sait quand même où il met les pieds. Hein, quand il arrive en novembre, il sait où il met les pieds. Et nous, on pressent, il sent que son engagement, il doit être quand même total. Après, chacun son caractère. Il y en a qui sont... qui remplissent totalement leur contrat par rapport au public, même si après, parce qu'ils interviennent chaque jour quand même, ils sont un peu fatigués et moins disponibles pour le public, d'autres qui font en sorte de se rendre disponibles tout le temps, quoi qu'il arrive, ce qui était le cas de Jeanne, ce qui a été le cas des deux Alberto, Manguel et Louis Sanchez.
Un grand connaisseur de Jorge Borges.
Voilà, après il y a les uns les autres, mais je n'ai pas souvenir, sauf un, d'une forme de déception pendant le festival sur le plan relationnel, que ce soit avec le public ou que ce soit avec nous.
Merci Maurice de ta présence. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir te revoir, t'écouter ici à la radio. Mais de toute façon, tu nous rappelles les dates pour le festival.
17 au 30 novembre.
Merci.
2014.
Merci à tous. Merci Aurélien.
Merci à toi et à l'équipe de CFM.
Maurice Petit était l'invité de Rosendo dans le cadre de ses émissions Les Rendez-vous de Rosendo. C'est tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h et le podcast à retrouver sur cfmradio.fr.